Salut à tous, je m'appelle Sylvain et bienvenue sur Histoire 2, le premier podcast intégralement consacré à Mylène Farmer. Vous pensez avoir tout lu sur la carrière de Mylène ? Eh bien vous êtes loin d'avoir tout entendu. Références culturelles, coulisses, productions, exploitations, pendant une heure on va vous raconter, décrypter, débattre à juste hauteur d'un album ou d'une tournée de la chanteuse. Et toute la team est là, salut tout le monde.
Mais oui,
salut. Bonjour.
Bastien, Clément, Ludovic, Thibault, je commence avec Bastien.
Bonjour à tous.
On t'a notamment vu cette année dans Je t'aime, etc. Tu es
oui,
journaliste.
Exactement.
Et on te retrouve sur les réseaux sociaux.
Et je cherche du travail. On appelle ça le mercato.
La Thibaut, salut Thibaut.
Salut à tous.
Blogueur sur thibautour.com, Thibaut avec un D.
Toujours.
Également très présent sur Instagram. Et on va le dire, on est le lendemain de la dernière de Mylène Farmer.
Oh,
il y a de très belles. Non, je dis ça parce qu'il y a des très belles photos de Thibaut sur Instagram de Mylène.
C'est une très jolie photo.
Oui. Allez voir.
Clément avec nous. Salut Clément.
Bonjour à tous.
Tu as un site sur les interviews de Mylène qui s'appelle mylène-interviews.ca. Et tu as également participé à beaucoup d'ouvrages sur Mylène, des fanzines, des ouvrages sorti en librairie.
Vous avez tous lu ?
Non, on a surtout regardé les photos que tu as sélectionnées.
Et évidemment, on finit par Ludovic. Ludo, salut Ludo.
Bonjour, bonjour à tous.
Musicien et chanteur et réalisateur de l'émission.
Exactement.
Au clavier, la direction musicale.
Vous pouvez nous retrouver et nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, Histoire de MF, Histoire.
Avec un S.
Et on attend aussi vos réactions et commentaires sur l'épisode avec le hashtag HDMF. Pensez à vous abonner sur les plateformes de podcast.
Et pensez à vous hydrater surtout.
On s'hydrate et on écoute le podcast.
Sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur Deezer, sur Magellan et sur Cybelle désormais aussi.
Ah bon,
et
nous avons de nouveaux partenaires.
À chaque épisode on en a un nouveau.
Exactement.
C'est super.
J'ai tout dit, alors on commence tout de suite. Voici Histoire de Cendre de Lune, épisode 5, les premiers pas.
Tu peux monter Histoire de...
C'est le 1er avril 1986 que sort Cendre de Lune, le même jour que le single Libertine, l'énorme tube. Mais Bastien, on le sait, l'histoire de l'album, la genèse de la carrière de Mylène, ça ne commence pas le 1er avril 1986.
Mais non, parce qu'en fait, l'histoire commence en réalité en 1983, trois ans avant la sortie de Cendre de Lune. La jeune Mylène Gauthier est comédienne, elle n'a que 21 ans et sort du cours Florent. Elle est repérée par Laurent Boutonnat et Jérôme Dahan, deux jeunes auteurs-compositeurs qui lui proposent de passer un casting, non pas pour un rôle, mais pour une chanson, elle s'appelle « Maman a tort » et sort au mois de mars 84 sous le label RCA.
1. Maman a tort. 2. C'est beau l'amour. 3. L'infirmière pleure. 4. Je l'aime. 5. Maman a tort. 6. C'est beau l'amour. 7. À l'hôpital. 8. J'ai mal. 1. Maman a tort. 2. C'est plaisir. 3. L'infirmière pleure. 4. Je l'aime.
Donc Mylène Gauthier devient alors Mylène Farmer en hommage à Frances Farmer, actrice américaine au destin tragique. La chanson Maman a tort va se faire remarquer et on a à l'époque déjà tous les ingrédients qui vont faire le mythe de Mylène Farmer. Un texte ambigu sur une petite fille qui aime son infirmière, un premier clip à petit budget de Laurent Boutonnat qui se termine en décapitation. Et cette chanson, la jeune Mylène Farmer va la défendre à travers les télévisions et radios régionales, tout d'abord puis nationales, en atteignant finalement le Graal, une participation à l'émission culte Champs-Élysées.
Wow. Magnifique.
Où Michel Drucker va Michel avoir une phrase prophétique. Nous sommes le 22 septembre 1984 sur Antenne 2.
Je vous souhaite une longue carrière, mademoiselle Mylène Farmer, qui vient pour la première fois à Champs-Élysées.
Bon, ben Michel, il a eu raison ce jour-là. Hein.
C'est vraiment. Dis ça à tout le monde de toute façon.
Non, mais ce qui est marrant, c'est que dans l'extrait, juste après ou avant, il lui dit oui, alors à tous ceux qui nous regardent au Québec, on salue la jeune Mylène Farmer.
Oui, il faut rappeler que Mylène Farmer est donc née
à Pierrefonds, au Québec.
Et on la prenait pour une chanteuse canadienne.
C'est ça,
on
l'a
rendue comme ça à l'époque. Ça, elle ne parlait pas comme ça sur plateau.
Et donc voilà, cette chanson, elle va quand même être vue et entendue partout.
C'est un petit succès.
Succès d'estime.
100 000 exemplaires, je crois, on parle de 100 000 exemplaires.
Ils ont même sorti dans l'été 84 la version anglaise du titre et ça donne My Mum Is Wrong.
She's
et Maman a tort. Cette chanson, elle a été écrite dans la cave de Jérôme Dahan avec Laurent Boutonnat. Et ils ont senti qu'il tenait un truc. Et pour la genèse, ils ont d'abord trouvé une jeune fille de 15 ans. Ils ont même enregistré la chanson avec elle. Mais comme elle avait 15 ans, juridiquement, ça leur posait des problèmes. Et donc, c'est là qu'ils ont commencé à faire un casting et qu'ils ont trouvé Mylène Farmer qui était déjà amie avec
eux. Une copine à eux.
Oui, voilà. Et Laurent Boutonnat, il adore produire des petites jeunes de 15 ans. Alizé et Julia.
Ce premier succès va pousser le trio Farmer Boutonnat-Dahan à produire une deuxième chanson, On est tous des imbéciles, qui sortira en janvier 1985.
Et toi, connard, ça te fait rire et moi pleurer, c'est con.
Une chanson que moi j'adore ou qu'on adore, enfin on aime bien délirer dessus quoi, mais qui
c'est
va,
un délire.
Qui ne va pas hélas rencontrer son public. C'est un échec et le label RCA se sépare du trio. Farmer et Boutonnat se séparent de Jérôme Dahan et vont rebondir chez Polydor.
Pour leur plus grand bien peut-être.
On va voir. Le duo retourne donc en studio pour enregistrer un nouveau titre, Plus Grandir, et cette fois-ci c'est Mylène qui va écrire les paroles. Polydor offre au duo les moyens de leurs ambitions et Laurent Boutonnat va réaliser un clip déjà très cinématographique de 7 minutes 30. Plongeons Mylène Farmer dans un univers qui nous sera familier. Cimetière, château, folie et sexualité sont au programme. La machine se relance, mais ce n'est pas non plus encore le gros tube. Cependant, Mylène Farmer va continuer à susciter la curiosité des médias. Et le 1er mars 86, elle officialise la sortie d'un futur titre et de son futur album. Nous sommes dans l'émission 5 sur 5 sur la chaîne La 5, présentée par Antoine Verglas.
Aujourd'hui, je reçois Marc Lavoine, Florence Guérin
et Mylène Farmer.
Bonjour Mylène.
Bonjour.
Alors vous sortez un 33 tours là,
oui, absolument. J'ai un album, c'est mon premier album, et qui s'intitulera Cendre de Lune. Et cet album sera précédé d'un 45 tours, c'est très important, qui s'appelle Libertine. C'est tout un programme. Oui.
Voilà, donc c'est tout un programme, comme elle dit. Et Libertine va donc arriver en cette année 1986. Ça y est, nous y sommes. Et pour fêter ça, eh ben, le pape Jean-Paul II effectue une visite en France.
Ah, ouais, ça va bien avec le thème de la chanson. Ouais.
C'est aussi cette année-là que le président Mitterrand va perdre sa majorité à l'Assemblée après les élections législatives. Et Jacques Chirac devient son premier ministre. Ce sont les débuts de la cohabitation.
Voilà. Sylvain, une imitation de Jacques Chirac.
Écoutez.
Ah oui, bah. Au cinéma, les Français découvrent Jean de Florette et Manon des Sources, du réalisateur Claude Berry, ainsi que Top Gun avec Tom Cruise. 1986, c'est aussi l'année de l'accident nucléaire de Tchernobyl. Paysage de désolation et prémices d'apocalypse en Europe. Mais la fin du monde n'est pas encore pour cette fois-ci. Pas de cendres du monde, mais simplement des cendres de lune, avec le tout premier album de Mylène Farmer.
Voilà.
Cinquième épisode de Histoire 2 et comme d'habitude, deux parties. Tout à l'heure, on parlera de l'exploitation de Cendre de Lune, mais tout de suite, première partie consacrée à l'album en lui-même. Et avant de passer la parole à Thibaut pour parler chiffres, je vais faire comme d'habitude, je vais vous demander vos ressentis sur cet album quand il est sorti. Alors, tout le monde n'était pas né, je pense.
Ah bah non, moi, non.
Personne même, non, si.
Si, moi j'étais né déjà. Ah, bah tiens, on va commencer par toi, Ludo, puisque c'est comme ça.
Aïe, aïe. Alors, bah moi, c'est un album que j'ai découvert dans l'été de 2002-2003, mais si on revient un peu en arrière, mes parents, Chantal et Jean-Claude, big up, je vous kiffe.
Big up, Chantal et Jean-Claude.
Ils m'ont mis en gestation en janvier 85. Alors, ça correspond, on est tous des imbéciles, donc il y a sûrement un lien de cause à effet. Mais bon, sinon, cet album, bah pour moi, il sent la mélancolie et la sueur des premières nuits d'amour.
Oh, joli.
Bastien ?
Oui, alors moi, j'ai très peu de souvenirs. Je serais incapable de vous dire quand est-ce que j'ai découvert cet album. Forcément très tard, vu que je n'étais pas né en 86. Pour moi, je sais pas, c'est un album que j'adore écouter. Il y a un côté perle rare de Mylène Farmer en fait dans cet album, parce que c'est que des titres pépites pour nous. Cet album, il existe très peu en live, il va pas vraiment vivre sur scène.
C'est vrai.
Donc je le prends comme un petit bonbon, un petit bijou, voilà, que j'aime bien.
Et toi, Thibaut ?
Alors moi, j'étais pas né non plus. Hein.
Quand est-ce que tu étais né ?
Hein,
mais oui, c'est pas possible cette histoire.
Je suis né entre l'épisode 2 et l'épisode 3. Mes parents se sont rencontrés en 86. Voilà. Oh. Tchernobyl et je suis arrivé.
Wow, incroyable.
Et donc Cendre de Lune, je crois que je l'ai découvert fin 2000, début 2001. Et je dirais juste que c'est un album qui a du charme. Ok, voilà. Clément.
Moi, quand l'album est sorti, j'étais tout petit, j'avais 5 ans, 86. Donc, je me rappelle, je le connaissais pas à l'époque, l'album. Je me rappelle quand même avoir vu Mylène à l'époque à la télé sautiller comme une petite folle, là, comme elle faisait. Je me rappelle du clip de Tristana, parce que je l'aimais beaucoup. Et puis, l'album, vraiment lui-même, voilà, je l'ai découvert en étant fan à l'époque de la sortie de Live à Bercy. Donc, une ambiance vraiment qui n'a rien à voir.
Ah, oui.
Et globalement, c'est un album que je considère comme mineur sans que ça soit péjoratif.
D'accord.
Oui, je te rejoins là-dessus. Oui,
et Sylvain, toi ?
Moi, j'avais déjà 7 ans. Hein, je suis vraiment le plus
T'es
vieux.
Grand.
Je me souviens très bien de Libertine, évidemment, le clip, vraiment beaucoup. Mais je me souviens, j'ai quelques images de Plus Grandir qui me reviennent. C'était 85, de Hervé Lewis, donc le héros de Plus Grandir avec elle, qui prend le sein de Mylène dans sa main. Et ça m'avait vraiment scotché.
Et j'ai découvert
l'album que entre 94-95. Quand j'ai acheté, alors là, pour les plus jeunes, vous n'allez pas comprendre ce que c'est. On pouvait s'abonner à un Club Dial. Et on avait 4 albums.
Je casse l'ambiance, je vois pas du tout ce que c'est.
Si tu veux, c'était un système d'abonnement où tu recevais tous les trimestres l'album du moment où tu choisissais l'album que tu voulais. Tu l'avais
par correspondance.
Voilà. Exactement le même principe. Ah. Mais il faut savoir que quand tu t'abonnais, tu avais la possibilité d'avoir 5 albums pour 10 francs.
D'un coup.
Francs. Hein, Et donc j'avais pris Ainsi
Soit
Je, Cendre de Lune.
Oui,
c'est toi qui les choisissais.
Dans un catalogue.
Au dos de Télé 7 jours. Et voilà. Et donc j'ai fait ça. Et c'est comme ça que j'ai découvert Cendre de Lune. Moi, je dirais le joli côté, et vraiment, c'est pas péjoratif, le joli côté artisan un peu amateur.
Ah bah carrément,
c'est pas du tout péjoratif, artisan.
Thibaut, je reviens vers toi, tu vas nous parler des chiffres de Cendre de Lune et des charts, ça donne quoi ?
Il faut dire que la carrière de Mylène Farmer, elle débute parallèlement à celle du Top 50, hein, le célèbre classement ayant
84,
été
le top
lancé
50,
en novembre 84. Ça, ouais. Pourtant, il faut attendre presque 2 ans pour que Mylène y fasse son apparition. Hein. C'est chose faite le 30 août 1986 avec Libertine qui entre en 43e position du Top 50, mes petits clous. Hein. La chanson ne va cesser de progresser durant l'automne avant de finalement intégrer le top 10 le 25 octobre.
Pas mal, hein,
top
10.
Tu vois, la chanson est sortie le 1er avril et elle est devenue un succès le 25 octobre.
Ouais. Voilà. Et qui dit top 10 dit matraquage du clip.
Et voilà,
au top 50. Quoi.
Le clip derrière a beaucoup quand même d'énormes tubes. Hein. Eve, lève-toi de Julie Pietri.
Ah.
Les démons de minuit.
Oh là là.
Et de Final Countdown du groupe suédois Europe.
Ouais.
Libertine, c'est vraiment le premier succès populaire de Mylène Farmer. Le titre s'étant écoulé à plus de 300 000 exemplaires. Et il est suivi par un autre joli succès au printemps 87, celui de Tristana, dont on a un peu oublié le succès justement, et qui a même fait mieux que Libertine. C'est-à-dire le titre a été classé numéro 7 et s'est également écoulé à 300 000 exemplaires.
Oui, je savais pas du tout.
Oui. Et l'album Cendre de Lune dans tout ça. Eh ben, il n'a laissé aucune trace dans les classements de l'époque, au moment de son exploitation en tout cas, parce qu'il faut dire qu'à l'époque, le top album ne recensait que les 20 meilleures ventes.
Exactement.
Et Cendre de Lune n'y est pas arrivé. Il faut attendre le printemps 89 et les concerts de Mylène Farmer au Palais des Sports de Paris pour que Cendre de Lune fasse une timide apparition dans le top album à la 39e place.
C'est intéressant. Il y avait un effet concert, quoi.
On peut se dire que c'est un album qui s'est vraiment vendu sur la durée, parallèlement au succès de Mylène Farmer. Je pense qu'à chaque fois que des fans sont arrivés, ils se sont procuré l'album.
Ils ont eu la curiosité comme nous à l'époque.
Voilà. Mmh. Et puis près de 35 ans après sa sortie, il a largement dépassé les 300 000 exemplaires vendus.
Il faut dire qu'à l'époque, les CD, enfin les albums, les 33 tout restait beaucoup dans les bacs.
Sylvain, je rebondis sur ce que tu dis parce que tu as dit CD là sans faire exprès.
Oui.
Mais ce qu'on peut dire, c'est que Cendre de Lune en 86, Polydor, il le sort en CD, ce qui est un support qui est vraiment tout nouveau à l'époque, etc. Mais ça montre la confiance qu'ils avaient sur Mylène à l'époque.
Oui, parce que c'était un gros investissement pour l'époque. Thibaut, on va rester avec toi parce qu'on se souvient dans l'épisode 2, on qualifiait l'album L'Autre du premier album type Farmer Boutonnat. Et en effet, Cendre de Lune, c'est pas un album type, pour le coup, c'est vraiment les débuts. Et là, Laurent Boutonnat écrit des chansons pour Mylène.
Alors, je fais un rappel historique pour qu'on comprenne à quel moment on se situe. Comme nous l'a rappelé Bastien, Mylène Farmer et Laurent Boutonnat ont quitté RCA pour rejoindre Polydor. Il faut maintenant sortir un album avec des chansons. Alors, à cette époque, Mylène Farmer ne s'est pas encore révélée comme parolière et c'est Laurent Boutonnat qui écrit, en plus de composer, 5 des nouvelles chansons de Cendre de Lune. A noter que Laurent Boutonnat avait déjà écrit une chanson pour Mylène Farmer en 1985 pour la phase B de On est tous des imbéciles. Elle s'appelle L'Annonciation et elle représente bien le style enjoué et fédérateur du texte de Laurent Boutonnat.
Et moi je sais que tu existes et ça me donne bien du malheur. Et moi je sais tu es triste. Car dans mon ventre, ça naît, ça meurt.
Super ambiance, effectivement.
Bonne
là,
vibration. Du coup, pas d'annonciation ni d'on est tous des imbéciles sur Cendre de Lune, mais des nouvelles chansons. Et avant de s'arrêter sur quelques-uns des titres écrits par Laurent Boutonnat, on s'écoute un medley. À toi, Ludovic.
Cendre de Lune, petite bulle d'écume, poussée par le vent, je brûle et je m'enrhume. Entre mes dunes reposent mes infortunes. C'est nu que j'apprends la vertu. Et où ce matin, y'a un cloué qui s'est noyé. J'ai vu ses cheveux flotter là-bas sous les chênes. On aurait dit une fontaine quand Chloé a crié, quand sa petite tête a collé.
Je vous sens fébrile. Aimez-vous mon petit nombril? J'entends hurler dans le vent. Est-ce le cri d'un chien dans l'enfer?
Et moi je rougis.
Quand je vous disais pépite, bijoux, oui, on est dedans.
On est dedans. Bah, premier titre, Chloé, c'est le premier qu'ils ont découvert, parce que je vais parler des gens qui suivaient Mylène Farmer à l'époque. Face B du single Plus Grandir. Une petite comptine pas si mignonne que ça, un peu perverse. Hein.
J'adore. Enfin, on est à l'époque où c'est aussi un peu l'ascension de Tim Burton. Et moi, je trouve qu'il y a vraiment une familiarité entre ces univers-là, entre Boutonnat.
Le côté enfance et morbide
oui,
à la
voilà,
fois.
C'est ça, voilà.
C'est-à-dire que la mélodie, elle est très, très joyeuse, très, très sautillante, dansante. Même l'orchestration, elle est là, 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 là. Mais il y a un texte qui... Enfin, Chloé va se noyer quand même.
Moi, je suis moins fan. C'est un peu trop caricatural. Elle a fait énormément de télé pour un titre qu'elle n'a pas exploité en single. Je crois qu'elle l'a chanté au moins 4 fois.
Mais ça se faisait beaucoup dans les années 80. De chanter les phases B.
Elle avait une tête de folle sur
cette... Mais alors, c'est génial.
Elle l'interprète vraiment, elle le joue, ouais. Bon, moi, je rejoins un petit Thibaut. Je trouve que voilà, la qualité de la chanson, c'est que finalement, elle n'est pas trop longue. Quoi.
Mais on sent que c'est des premières chansons. C'est des chansons post-adolescentes où on essaye d'imposer une sorte d'ambiance, une sorte
carrément
d'écriture. Et il faut quand même dire que bah, pour des premières chansons, le texte est super bien écrit. Ah ouais. Laurent Boutonnat écrit très bien les textes.
Vraiment, il a un sens de la formule. Ouais.
Ce
ouais,
qu'on
ouais
peut pas leur reprocher, c'est qu'ils n'ont pas de filtre, ils n'ont pas de barrière,
ah
et ils vont au bout du truc.
Ah,
hein. C'est-à-dire
vont,
que
oui,
c'est aussi le charme des premiers albums, c'est qu'on
on
ne s'interdit
tout
rien.
On
n'a
rien
tout
à perdre.
En parlant de pas de barrière, pas de filtre, on ne s'interdit rien. Vieux book, qui est aussi cette Mylène Farmer bien dark et bien perverse. Mmh. Qu'est-ce que vous en pensez de vieux book? Je vois la tête
là
de là, Sylvain.
Je vous sens fébrile.
Ah oui, ouais, je sens Sylvain fébrile sur vieux book.
J'ai pas grand-chose à dire. Elle me fait un peu penser à On est tous des imbéciles.
Ah bon
ouais, la rythmique, le son en fait.
D'accord.
Non, moi je l'aime bien parce que le registre de voix de Mylène est assez intéressant. J'aime bien aussi la composition de Laurent Boutonnat qui, à l'époque, on sent que voilà, il vient du classique, etc. Et il met beaucoup de choses dans ses compositions qu'il va abandonner par la suite parce qu'il ira plus à l'essentiel.
Et fourmi d'idées.
Ah, mais
il y a beaucoup de gimmicks et de petits sons un peu partout.
Ouais.
Je la trouve passionnante,
ah
cette
ouais,
chanson. Et alors, je peux reprocher justement à Chloé un côté un peu too much, un peu caricatural. Il y a aussi un peu de ça dans Vieux Book. Moi, ça passe totalement.
Ça marche,
c'est,
ouais.
Voilà, c'est un titre que tu disais, tu parlais de pépite, Bastien, sur l'album. Moi,
mais
c'en est
ça,
une.
Ouais,
et
oui,
aussi dans Vieux Book, on peut entendre, on peut supposer, alors c'est pas écrit dans les crédits, c'est un ressenti personnel, moi j'ai l'impression d'entendre des violons qui sont vraiment
des vraies cordes.
Ouais, des vraies cordes.
Et qui pourraient pas être faites sur clavier. Quoi.
Non, enfin, parce que dans les années 80, c'était pas imitable comme ça, et c'est très très beau.
Moi ce que j'aime bien dans Vieux Book, c'est qu'il y a un délire total, ils se font plaisir aussi,
oui,
ils s'amusent avec ce genre de thématique. Hein. Elle le dit, hein, des fois, dans une interview de l'époque, elle dit, on écrit, on chante, parce qu'il parle à deux, c'est un duo, hein, vraiment, ce qui nous amuse. Hein. Et Vieux Book, ça peut apparaître très sombre, à la fin on entend quoi? Une chèvre.
Une ouais, chèvre qui belle.
C'est génial.
C'est génial, voilà.
Et d'ailleurs, dans cet album, il y a beaucoup de chansons spontanées. Et Jean-Claude Dequéan, il disait qu'ils arrivaient en studio.
L'ingénieur du son de l'album.
Exactement.
Et quel compositeur de Libertine.
Et quel compositeur de Libertine. Il raconte que de toute façon, il venait, Laurent Boutonnat, les mains dans les poches. Et que tout était improvisé, qu'il cherchait les idées comme ça et qu'ils enregistraient
très
vite.
On n'est pas
très,
très étonné de cette nonchalance.
Non, oui,
on n'est pas
voilà
surpris.
C'est le personnage.
Oui, c'est le personnage.
Ouais. Est-ce qu'on peut parler d'un de mes titres préférés de Cendre de Lune? Pour moi, c'est une pépite, vraiment.
Allez,
c'est We Never Die.
Ah ouais.
Et évidemment, de l'arrivée pour moi de Carole Frédérix, hein, vraiment qu'on entend
dans les chœurs.
Ah, ouais,
ouais,
ouais. Mais c'est même plus que dans les chœurs, c'est limite un duo. Hein,
c'est
oui,
ça,
oui.
C'est ça.
Se répartissent les différentes parties de la chanson. Elle est vraiment avec une ambiance musicale très minimaliste. Il y a pas la marque de fabrique de Boutonnat, c'est quoi? C'est les synthés. Là, il y a pratiquement pas de nappe de synthé.
Non.
C'est beaucoup de percussions. Et puis moi, j'adore le Will Never Die. On dirait un peu un titre de James Bond.
Un peu.
Absolument.
On parle quand même des textes de Boutonnat. C'est un texte qui est très politique, en fait, qui parle des choses très concrètes. Hein, donc des enfants soldats, en fait. On n'aura pas souvent ça dans la carrière de Mylène Farmer, des chansons un peu politiques, actualité.
Oui, voilà.
Du moins aussi explicite, effectivement.
Mm. C'est un de mes titres préférés de l'album, mais c'est pas ma version préférée de cette chanson.
Quelle est ta version préférée alors ?
On en a déjà parlé de l'album Dance Remix.
Dance Remixes,
je sais pas comment tu dis, sur le podcast que l'autre, épisode 2, toujours disponible. Le Techno Remix qu'ils ont ressorti ce titre pour cette compile, et cette version
est
incroyable.
Ouais.
Ah, vraiment, c'est un
bijou. Il est génial, ce
remix. Je me souviens qu'il y avait une rumeur à l'époque, je sais pas si vous allez me confirmer ça, qui avait parlé d'une sortie en single.
Et il a été exploité en 45 tours au Canada.
Au Canada,
Will Never
donc c'est vrai. Donc c'est ça, il a bien été exploité.
En lieu et place de Libertine.
Est-ce qu'on peut dire que cette phrase Will Never Die, Laurent Boutonnat l'a gardée pour Giorgino,
ouais.
Si je me trompe pas, il y a
c'est Giorgio qui dit ça quand il va chercher Catherine à l'asile,
ouais, qui est un film de Laurent Boutonnat dont on vous parlera peut-être un jour.
Peut-être.
Laurent Boutonnat écrit et compose, mais Mylène n'est pas en reste. Bastien,
Mylène Farmer va aussi écrire des textes, mais il faut savoir que Cendre de lune est l'album le moins écrit par Mylène Farmer. Elle signe seulement les textes de 3 chansons, dont Plus grandir et Au bout de la nuit. On les écoute. Deux chansons qui montrent deux aspects de la chanteuse qui vont rester pour de longues années. La femme enfant de Plus grandir et la femme plus fatale dans Au bout de la nuit. Et bien on va parler de Au bout de la nuit pour commencer. J'adore, je crois que c'était une de mes préférées de l'album. Très sensuelle, tu parlais d'une nuit chaude d'été, là on est vraiment là-dedans.
Oui, hein.
Et on a ce truc très années 80 et très sexy. C'est très très envoûtant.
Je la ressens exactement pareil. Et pourtant je trouve que c'est une chanson qui aurait pu être dans n'importe quel album d'une chanteuse débutante des années 80.
Mais
elle a quelque chose...
Elle a quelque chose en plus, mais elle est assez pas banale, mais elle est assez commune à ce qui se fait à l'époque.
Oui.
Elle est moite, cette chanson.
Elle est très moite. Moi, j'aime beaucoup.
Comme une nuit d'amour, hein, comme
tu le disais.
Oui.
Les chœurs sont très langoureux. C'est très très beau quand les chœurs arrivent à la fin.
Très beau.
Donc, elle est juste après Libertine dans l'album. Donc, il y a la folie de Libertine.
Deux ambiances différentes à la
suite. Qui ouvre Cendre de lune.
Et donc après la femme fatale, la femme enfant, donc de Plus grandir, cette chanson. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure, qui est sortie en 85 et qui est une bonne chanson de Laurent Boutonnat. Enfin, on en reconnaît bien la musique de Laurent Boutonnat.
On la reconnaît oui et non, parce que on la connaît pas jusque là en fait. Justement, on la découvre, mais on découvre tous ses codes et voilà le petit gimmick infernal vraiment que sur le refrain, son sens de la mélodie, etc. Non, vraiment, on découvre son son.
Parce que c'est le premier single 100% composé par Laurent Boutonnat.
Exactement.
Il y avait Maman Tort qui avait été composé avec Jérôme Dahan. C'est quand ils ont signé chez Polydor, le patron de Polydor, Alain Lévy, a écouté quelques chansons qu'ils avaient préparé, et il a dit il faut que vous sortiez cette chanson en premier single. Il a pas eu le nez creux parce que la chanson n'a pas été un énorme succès, hein.
C'était un semi-échec,
on va dire ça. C'est un moins
mais s'ils avaient sorti Libertine en 85, ça se trouve ça aurait pas pris du tout,
ils auraient peut-être pas élaboré un plan d'attaque pour Libertine. C'est le premier clip aussi en cinémascope de Laurent Boutonnat qui
est-ce
va...
que tu peux me dire c'est quoi le cinémascope,
parce
que
le
c'est vrai que c'est quelque chose qui était vendu genre c'est le premier clip en cinémascope, etc., mais je vois même pas ce que
c'est le format cinémascope. cinéma, c'est du format 35 mm en pellicule. Alors qu'à l'époque, les clips sont en vidéo et même de toute façon, tout le reste de la variété française restera en vidéo. Alors, ce sera un des seuls qui fera de la pellicule pour des clips.
Et d'habitude, on était en 4 tiers et qu'effectivement, là, le cinémascope, c'est vraiment ce que tu regardes à la télé avec les deux grosses bandes noires.
Il y a toute cette ambiance un peu creepy de Laurent Boutonnat avec les bonnes sœurs, les mêmes bonnes sœurs.
Ouais, on est vraiment dans des fantasmes. Bastien, tu disais que Mylène, elle exploitait son côté femme-enfant avec Plus Grandir. Elle a fait pas mal de télé sur Plus Grandir, mine de rien. Et notamment une où elle est déguisée en petite ballerine avec un tutu, elle tourne sur elle-même, etc. Donc voilà, il y a cette exploitation aussi de l'image femme-enfant, même dans les télés.
Allez, on passe à la seconde partie de l'épisode avec l'exploitation de Cendre de Lune.
C'est l'heure du baptême, je vous aime devant l'éternel. Je sais, l'enfer c'est les autres, en ce monde, on est tous des vôtres.
On va s'arrêter sur deux singles extraits de Cendre de Lune, les deux gros tubes de l'album. On va commencer avec toi Thibaut. On entendait la chanson un peu partout et même les enfants la chantaient, mais a priori ça faisait beaucoup rire Laurent Boutonnat. On va parler d'un gros succès. Est-ce que tu es libertine Thibaut ?
Ah, je sais pas, je suis peut-être une catin, mais ça c'est un autre sujet. En tout cas, lorsqu'on évoque Mylène Farmer, il y a un mot qui revient quasiment tout le temps, c'est libertine. Et pour cause, hein, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, libertine c'est le premier vrai succès populaire de Mylène Farmer. Le 45 tours sort parallèlement à l'album Cendre de Lune, le 1er avril 1986. Les paroles sont de Laurent Boutonnat et la musique d'un certain Jean-Claude Dequehan. Clément, Ludovic, quelqu'un de vous sait qui est Jean-Claude Dequehan ?
Alors Jean-Claude Dequehan, c'est un pro qui travaille avec vraiment avec tout le monde. À la toute fin des années 70, et ben justement, comme il y a une crise du disque, il monte un studio qui s'appellera le studio du Matin Calme. Et en fait, voilà, de fil en aiguille, il est amené à rencontrer Laurent Boutonnat et Jérôme Dahan. Ils se d'amitié pour eux, il les accueille dans son studio, il leur donne son matériel, etc. Et c'est comme ça que va naître l'enregistrement de Maman a tort. Alors, et notamment Jean-Claude Dequehan, il avait une musique qu'il avait composée en 84, une chanson qui s'appelait L'amour tutti frutti.
Ça donne envie.
Et puis Laurent Boutonnat, je crois que...
Il a transformé ça en libertine, quoi. C'était une version rock, il paraît. On n'a jamais entendu cette maquette.
Alors, on ne l'a pas entendu, c'était une version chantée par une chanteuse dont, hélas, on ne connaît pas l'identité, avec des paroles qui n'ont rien à voir avec celles de libertine. C'était des paroles écrites par Jean George Sibold.
Et il y a Jean-Claude Dequehan qui parle de libertine de sa conception. Il dit que Laurent Boutonnat a mis du temps à faire les couplets après les refrains.
Alors, je suis libertine.
Non, non. Et il y avait même une partie parlée rappée.
Mais on dit aussi que c'est Mylène en studio qui était en train de faire un peu de yaourt.
Alors, c'est elle qui a improvisé. Elle a lancé comme ça, je suis une catin. Évidemment, Boutonnat, ça lui a plu, ça l'a accroché, il a rebondi dessus. Et voilà, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement. Quand tu disais Ludovic que Laurent Boutonnat il arrive au studio les mains dans les poches et les choses se faisaient comme ça vraiment
tout est spontané,
ressenti exactement.
Il y a une vraie folie dans cette chanson qui ne ressemble à aucune autre chanson de l'album d'ailleurs. Alors je pense que on dit que c'est une musique de Jean-Claude Dequehan, ça reste des arrangements et une production de Laurent Boutonnat.
Exactement.
Donc
il a créé beaucoup de choses autour de la chanson pour que ce soit fou.
Elle est folle.
Le saxo c'est incroyable.
Le saxo comme un orgasme. Hein.
Mais c'est ça. Tout à l'heure, Thibaut, tu parlais de l'album Men's Remix avec We Never Die. Pareil, sur cet album, on a une nouvelle version de Libertine. Et pour créer cette nouvelle version, Laurent Boutonnat, il utilise des rushs de la prise de saxo. Et notamment, donc, on découvre que la prise de saxo, elle se finit par un crescendo comme ça qui vraiment mime un orgasme.
Saxophone de Alain Hatto.
Ouais. Libertine, c'est une chanson, mais c'est aussi une image, c'est aussi un look. Hein. Alors, c'est d'abord un teint très pâle que l'on doit à Nicolas Degène, qui l'a maquillé à l'époque et qui est aujourd'hui directeur artistique de Givenchy.
Pas mal. Hein.
Et puis, évidemment... ses cheveux roux, car c'est avec Libertine que Mylène Farmer, j'ai envie de dire, devient Mylène Farmer.
Complètement.
Hein. Au mois d'avril 1986, Mylène change de couleur de cheveux pour ce roux qui va devenir sa signature et qu'elle ne quittera plus jamais.
Ah oui, c'est emblématique. C'est ce qui lui donnera son charisme absolu.
Sur les premiers singles, à chaque fois, elle change de coupe de cheveux. Ouais. On sent qu'elle se cherche, hein, entre eux, Maman Attends, On est tous des imbéciles, et même Plus grandir. Du coup, Libertine est un quatrième look. Même à l'époque, c'était une passade, en fait, ce roux pour elle.
Ouais, elle le dit au détour d'une interview. Voilà, elle dit, bon, bah là, je suis rousse. Enfin, de façon un petit peu, voilà, elle le dit un peu à la légère, comme si c'était pas définitif. Et puis, bah, l'image va tellement prendre que, bah, voilà, ça reste.
Ouais, elle pensait pas que ça marquerait autant. C'était juste pour le projet du clip.
C'était pour le clip, parce qu'en fait, elle a commencé la promotion de Libertine. Elle a fait des télés.
Elle est encore brune, ouais.
Elle est habillée en look 18e. Et elle est brune et ça n'a pas du tout la même saveur.
Et d'ailleurs, Bertrand Lepage ne s'y est pas trompé.
Manager de Mylène Farmer à l'époque.
Quand ils ont réédité le 45 tours de Libertine, ils ont pris une photo du clip où elle est rousse parce qu'avant, elle avait une première pochette où elle est brune. Voilà.
Oui, c'est ça.
Cette pochette, manifestement, n'a pas lancé du tout le disque.
Il y a la chanson, il y a le look, mais ce qui va faire de Libertine un tube, c'est évidemment son clip. Hein. Alors, c'est un clip qui n'a pas été si facile que ça à faire, hein, parce que quand ils ont rejoint Polydor, Alain Lévy, le patron de Polydor, il croyait vraiment, il les a aidés à financer Plus grandir a été un échec. Du coup, il était beaucoup moins chaud pour les aider à faire le projet qu'avait Laurent Boutonnat pour ce clip grand spectacle. Mais Laurent Boutonnat, il y croit. Il souhaite mener son projet à bien pour deux raisons. Hein. Déjà parce qu'il sait que dans cette deuxième moitié des années 80, l'image compte tout autant que la musique. Hein. Et de l'autre, c'est qu'avec Mylène Farmer, ils ont cette passion commune du cinéma et de cette envie de faire des films. Hein. D'ailleurs, Laurent Boutonnat a expliqué sa démarche sur Canal+ en septembre 88.
Le clip est une nouvelle discipline pour un jeune réalisateur. Est-ce que c'est une étape indispensable pour devenir plus tard un réalisateur de long métrage?
Non, c'est-à-dire le clip, en fait, enfin, je trouve, n'est pas autre chose qu'un petit film, à vrai dire. Alors, on a fabriqué ce mot-là, clip, parce que c'était lié à la chanson, mais c'est vrai que ça permet, un, de tourner, et deux, d'être vu par des millions de gens, ce qui n'est pas le cas jamais d'un court-métrage, et pour trouver de l'argent, et pour être vu, quoi.
Ouais.
Donc, à la fois, ça sert la chanson, puis à la fois, ça sert le plaisir qu'on peut avoir à le faire.
Il a tout compris.
Ouais, franchement, c'est incroyable.
C'est vraiment un plaisir qu'ils veulent faire, comme il l'explique. Hein. C'est que c'est pour faire des films et c'est le moyen qu'ils ont trouvé, parce que faire des courts-métrages qui seront beaucoup moins vus que des chansons.
Laurent Boutonnat, en fait, il a démarché des producteurs, il a trouvé Alain Grandjira, il y est allé avec ses storyboards pour prouver son sérieux, même si, il le confesse, les storyboards, c'est quelque chose qu'il n'a jamais enchanté.
Un storyboard, on va l'expliquer deux secondes.
On dessine plan par plan ce qu'on va filmer. En gros, pour avoir vraiment une trame et savoir comment, et même pour le montage, c'est très très bien. Voilà. Mais lui, il n'a jamais voulu vraiment fonctionner comme ça.
C'est toujours ce côté spontané qu'il a. Voilà.
Mais pour avoir le financement, il était obligé de faire ça pour prouver son sérieux.
Donc ils l'ont financé avec une boîte qui s'appelle Moviebox.
Moviebox, pour lequel il faisait des compositions pour des pubs,
déjà
pour des
à l'époque,
publicités. Hein. Et ouais. Et d'ailleurs, chez Moviebox, il y a une responsable de post-production qui va demander à Agnès Mouchel, qui va devenir la monteuse pendant 8 ans de Laurent Boutonnat, de monter le clip, on ouvre les guillemets, d'un jeune mec très sympa.
Alors, le clip de Libertine a coûté environ 500 000 francs de l'époque, soit 130 000 euros d'aujourd'hui. Mm-hmm. Hein. Et je parle d'argent parce que c'était un vrai sujet, hein, pour le duo Farmer-Boutonnat à l'époque. Hein, et Libertine était leur va-tout pour continuer dans le game, hein, tout simplement. Alors l'objectif était de faire un clip grand spectacle à moindre coût. Par exemple, quasi tous les figurants du clip sont des employés de la boîte de production.
Ouais, des assistants,
des secrétaires, des choses comme ça.
Qui se mettaient toutes nues pour prendre le bain avec Mylène. Incroyable.
Ah, l'ambiance devait être sympa. Quoi.
Ah, la magie des années 80.
Ah,
on faisait ce qu'on voulait.
Alors, je vous parle de grand spectacle, hein, parce qu'on est dans une totale ambiance Barry Lyndon, hein, du film de Stanley Kubrick, avec costumes d'époque, chandeliers, cascade à cheval. Hein. C'est un clip culte, tout simplement.
Clip culte qui a vraiment marqué sa carrière. Et
oui, parce qu'il a vraiment imprimé une image.
Il a imprimé que Mylène Farmer, c'est la reine du clip. En France.
Et d'ailleurs, dans l'intro, dans le générique, c'est pas Mylène Farmer dans Libertine.
C'est Mylène Farmer et Libertine.
Ouais,
et
ça, c'est la nuance est très bonne.
La nuance est bonne.
Ouais, l'idée d'en faire une héroïne aussi.
Exactement.
Et ça, c'est.
Et un personnage à part entière.
Mais surtout que le clip était quasiment jamais diffusé en intégralité à la télé. Pas uniquement pour les scènes de nu, mais parce qu'il est très long. Il fait 11 minutes.
C'est là où on voit qu'il y a des moyens qui sont mis en œuvre pour faire du cinéma. Bon, il y a des décors, des costumes, etc. Mais il y a aussi de la musique additionnelle. On va enregistrer des musiques spécialement. Voilà.
Mais ils ont sorti une BO d'ailleurs.
Ils ont la bande originale de Libertine, donc on va en studio pour aussi enregistrer une musique spécialement pour le clip. C'est assez rare et il y a un générique, enfin.
Ils ont même fait une avant-première.
Bien sûr.
Sur les Champs-Élysées.
Sur les Champs-Élysées. Mylène Farmer n'était quasiment personne à l'époque. Non. Elle avait fait deux singles qui avaient pas hyper bien marché. Elle sortait un nouveau single. Et là, on en fait un événement, en fait.
Comme tu disais, Thibaut, c'est leur va-tout. Et ils savaient que de toute façon, après ça, il n'y avait plus rien. Si ça marchait pas, on arrêtait tout. Alors que là, et quel coup de maître, quand même. Parce que du coup, le clip a fait parler, mais alors ça fait des papiers dans tous les sens. Faut rappeler quand même ce que c'était qu'un clip à l'époque. l'époque, hein, même si elle avait des très bien réalisées, c'était quand même généralement l'artiste qui faisait son playback, il y avait quand même 2-3 effets, il y avait tout ça, alors que là on a une Mylène Farmer qui fait à peine 10 secondes de playback de Libertine, et on n'a jamais vu ça.
C'est un clip qui n'a pas coûté d'argent, mais à l'image on voit l'argent en fait, on voit qu'il y a des moyens et on se dit celle-là, bah, elle rigole pas quoi.
Mais d'ailleurs il y a le premier impresario manager de Mylène Farmer,
là ça nous transporte dans une autre époque,
qui dit qu'elle voulait frapper déjà à l'époque un grand coup. Il s'appelle Jacques Méjès, il a confié que Mylène Farmer, elle était fascinée par la réussite de Jeanne Masse et qu'elle voulait être à sa place. Elle l'a surpassée.
Elle l'a même surpassée, oui, comme tu dis.
Je sais pas si Jeanne Masse voudrait la carrière de Mylène Farmer aujourd'hui.
Ah bah elle a dit que non. Ouais.
Autre très gros tube de l'album, Bastien, c'est Tristana.
Ouais, alors il faut savoir que cette chanson ne faisait pas partie de l'album Cendre de Lune, car il a été enregistré par le duo, alors je pense autour de fin 86, début 87. Clément, on a une interview de Mylène Farmer en janvier 87 qui dit qu'elle vient de terminer.
Elle dit on a fini le titre il y a 3 jours en studio.
Le titre est enregistré bien après la sortie de l'album et il est enregistré avec l'aide d'un ingénieur du son qui s'appelle Thierry Rogène Ludovic.
Et oui, Laurent Boutonnat cherchait un ingénieur du son réalisateur pour être épaulé et c'est Michel Ely, un ami de Laurent Boutonnat qui est le producteur d'Axel Bauer à l'époque, qui va lui parler de Thierry Rogène. Et la première collaboration, elle est dans le studio du Palais des Congrès. Il faut dire que c'est le premier studio qu'ils vont fréquenter, qui est un vrai gros studio pro, fréquenté que par des pointures.
Très connu à l'époque.
Voilà, et c'est bien en fin 86. Et on est déjà dans un niveau de production beaucoup plus élaboré, c'est beaucoup plus fourni. J'ai envie de dire, c'est presque un morceau qui va être le pilote au futur album, ainsi soit-je.
Et donc la chanson sort finalement le 12 février 1987, Tristana, une musique pop hivernale qui évoque la Russie. La chanson va très bien se classer, comme tu l'as dit Thibaut, même mieux que Libertine, et va donc être intégrée à une réédition de l'album Cendre de Lune, comme quoi les rééditions c'est pas quelque chose de nouveau, hein, ça existait déjà à l'époque.
Hein.
Et pour accompagner la chanson, un clip encore formidable, encore en cinémascope Ludo ?
Toujours
en cinémascope. Oui. Une revisite du conte de Blanche-Neige transposée dans un univers slave russe, et dans le rôle de la méchante reine, on retrouve bien évidemment avec bonheur Sophie Tellier, qui était la rivale dans le clip Libertine.
Ступай! Ступай! Убей ее! Убей ее! И принеси мне ее парадную кожу!
Qui dit Blanche-Neige, dit sept nains qui vont recueillir Tristana. Alors les sept nains, eux, ils sont communistes, ils ont un portrait de Karl Marx à la maison.
Oui,
c'est assez drôle. Un tournage de 5 jours qui va se faire dans le Vercors, dans un univers enneigé. Il va y avoir des loups, donc on a un peu tous les symboles qu'on retrouvera plus tard. Un clip très cinématographique. Et puisque je parle de cinéma, Clément, on va tordre le cou à une rumeur définitivement.
Ah, oui.
La chanson Tristana n'a jamais été inspirée par le film de Buñuel du même nom.
Ah ouais, il y en a marre des fake news. Hein, donc on va en parler.
Et là, c'est un vrai cri de colère qui va pousser Clément.
Non, un film avec Catherine Deneuve, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Alors c'est vrai que voilà, la référence, elle s'impose d'elle-même et on la retrouve, hein, il faut bien le dire, dans quasiment toutes les bios sur Mylène.
Et sur Wikipédia. Ne lisez jamais Wikipédia.
Les auteurs de bio, ils aiment bien essayer de trouver le lien entre les paroles de la chanson et les scènes du film, etc. Et pourtant, en mai 87, dans une émission qui s'appelle Laser sur la toute nouvelle chaîne M6, où Mylène vient présenter le clip de Tristana, eh ben, elle confesse à l'animatrice qu'en fait, le film de Buñuel, elle ne le connaît pas du tout.
Elle n'a pas vu.
Et que tout ça vient d'une confusion de sa part. Elle explique elle-même qu'elle pensait que Tristana était un prénom russe, alors qu'en réalité, c'est un prénom espagnol. Elle avait confondu avec Tristania.
C'est vrai qu'une version latino de Tristana,
c'est parce
pourquoi pas.
Du coup, Tristana, une chanson culte et un clip culte pour les fans.
Mais je me demande si c'est pas grâce à ça qu'elle a aussi eu un succès énorme en Russie, parce que Mylène Farmer est une chanteuse très très populaire
en
Russie.
J'ai pensé la même chose.
Moi, ça me paraît évident.
Ça s'était exporté à l'époque ou
alors,
c'est
non,
plus tard ?
Le succès en Russie, il intervient plus au milieu des années 90, mais... Du coup, à ce moment-là, il redécouvre ce qu'elle a fait avant.
Oui, comme nous, comme nous. Bon, en tout cas, c'est une chanson qui est adorée par les fans aujourd'hui.
Ce que je trouve très fort, c'est que après avoir fait un tube avec Libertine et imprimé un personnage, elle a pris l'opposé total, c'est-à-dire ouais. qu'elle oui. s'est couverte jusqu'à la tête avec son écharpe, elle est partie dans la neige et elle a joué un personnage totalement différent oui. mais qui renforce encore plus c'est-à-dire son personnage
de Mylène Farmer. Et d'ailleurs, en promo, elle le revendique. Elle le dit elle-même qu'ils ont voulu prendre le contre-pied de Libertine et de pas s'auto-plagier.
Ce qui me plaît bien au tout début, c'est « À papa ». C'est écrit dans le
oui,
dans
le clip est dédié
ouais, son père est décédé juste avant
juillet 86.
Le succès de Libertine. Ouais.
Moi, c'est vraiment un clip que j'adore, Tristana, j'adore l'ambiance un peu conte de fées et puis un peu conte de fées cruel. Voilà, ça finit enfin je sais pas, la séquence de fin, elle me bouleverse elle nous laisse sur une incertitude
c'est très très beau. Là.
Est-ce qu'elle ouais, est morte enfin voilà, est-ce qu'elle est morte, est-ce qu'elle est pas morte, elle-même le dit, je sais pas. L'image est belle, voilà, c'est blanc, c'est la neige, ouais. c'est pur, c'est vraiment voilà, ça appelle à la pureté et puis c'est aussi le sens de Boutonna de renverser les situations. Voilà, le prince lui fait un baiser, mais c'est pas comme dans Blanche-Neige, on embrasse une morte, elle se réveille pas quoi.
Non, ouais. C'est ça. Il y a une très belle musique additionnelle encore une fois. Encore ils ont une aussi fois. Sorti ouais. une BO
sorti
d'ailleurs
une BO aussi, ouais.
pour Tristana oui.
Et c'est un clip qui a été matraqué alors, pour le coup je m'en souviens très bien. C'était matraqué, ah oui, matraqué, très gros tube.
Je crois que c'est la chanson qu'elle a le plus chantée en télé.
Exactement.
Et elle a des danseuses pour la toute première fois oui. avec elle, donc on sent qu'il y a plus d'investissement.
Donc encore Sophie Tellier, comme ça voilà, ça prolonge un peu l'univers du clip.
Forcément le succès de Libertine a fait que
elle a deux danseuses,
qu'elle a deux danseuses, elle a des moyens voilà. derrière pour ouais. travailler mmh. pour la promotion. Ouais.
Ouais, elle a une vraie chorégraphie, ce qui n'est pas vraiment le cas sur Libertine où elle courait un peu dans tous les sens.
La chorégraphie d'ailleurs, c'est Mylène Farmer ou c'est Sophie Tellier
ouais. C'est Mylène.
C'est Mylène.
Ah, c'est Mylène Farmer. Ouais. Histoire
de... Alors tu le disais Thibaut tout à l'heure, Mylène était très présente en télé pour défendre Tristana.
J'ai dit ça ?
Tu as dit ça.
Ah oui, c'est vrai.
Moi je m'en rappelle.
Et justement Bastien, on va revenir avec toi au premier rapport de Mylène avec les médias.
Si on vous parle de Mylène Farmer aujourd'hui, on vous la présente comme absente des médias, ce qui est très vrai. Mais vous vous doutez bien qu'à ses débuts, c'était une toute autre histoire. Donc dès 1984 et pendant toute la période de promotion de l'album, à partir de 1986, eh ben, Mylène Farmer va faire le job et elle va aller vendre ses chansons partout.
Ah ouais,
sur
ah oui.
Sur les antennes locales, dans les émissions d'après-midi, du soir, en radio, en télé.
Sur on France 3 régions,
voilà,
partout.
On la ça verra s'arrête jamais. De partout. Mmh. Elle doit se faire connaître et faire connaître son personnage. Écoutez cette archive où elle est face à Jacques Pradel dans l'émission Ligne Directe. Nous sommes le 1er avril 1987, toujours sur Antenne 2. Mylène Farmer, c'est déjà bien ce qu'elle veut écouter.
Alors, je ne vous connais pas.
C'est moi non plus.
Je suis bien content de vous avoir avec nous. Vous avez 25 ans, hein, vous êtes né au Canada, et puis vous avez, à chaque fois que vous avez sorti un disque ces derniers temps, et ça va durer longtemps, j'espère pour vous, ça a bien, bien fonctionné. Ouais. Et juste avant qu'on enregistre cette chanson, je vous posais une petite question, comme ça en disant, alors quand est-ce que vous faites de la scène?
Oui.
Vous n'êtes pas pressé?
Non, c'est-à-dire, c'est vrai que j'ai une vision des choses qui diffère peut-être un peu de certains artistes, c'est que moi, je vais prendre mon temps, que je suis en train de construire une image, un personnage, et que je voudrais avoir à mon actif au moins deux albums. Mmh. Voilà, et qu'en ce moment, c'est un marché qui est très difficile, et que de se produire en spectacle, c'est aussi très difficile. Donc c'est quelque chose que je veux penser.
Elle a déjà le plan, et c'est exactement
elle
comme ça que ça
plan.
Va se passer. Ouais, ouais. D'abord deux albums, après la scène, je dois me faire connaître, enfin, tout est déjà
tout est
bien
réglé
cadré.
Dans sa tête.
Et parfois, faire connaître son personnage, c'est vraiment accepter tout et n'importe quoi. Il y a quelques archives de l'époque qui sont assez savoureuses, notamment cette émission La vie à pleines dents d'une télé locale toulousaine où Mylène est l'invitée d'un animateur déguisé et maquillé en Pierrot. Il est un peu angoissant, je vous le cache pas, et il va lui présenter une jeune fille de 14 ans qui participe à la fête de la science à Toulouse. Et cette jeune fille, elle est venue pas toute seule, elle est venue en plateau avec une très 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 grosse fusée. C'est assez
grosse
comique.
Comment
qu'est-ce que c'est que
non mais c'est assez comique a posteriori. On vous proposera de regarder ça. Et le lendemain justement, Mylène est interrogée sur cette promotion un peu hasardeuse sur une radio toulousaine.
Il y a des émissions qui sont plus ou moins réussies, qui ont plus ou moins de moyens et plus ou moins de compétences, mais c'est quand même avant tout un plaisir.
Mais quand même, quand tu vois la jeune fille qui débarque avec des fusées, que d'ailleurs ça m'a fait penser pas qu'à des fusées, je vais tout de suite.
Enfin, surtout la grosse, effectivement, vous avez eu les fruits bien mal tournés. C'est pour ça qu'on m'a proposé de la prendre dans les mains, mais j'ai refusé.
Tu ne demandes pas quand même ce que tu viens faire ici, un peu
Non, parce que c'est un honneur qu'ils me font, entre guillemets, parce que je suis malgré tout la vedette de l'émission, donc c'est trois titres, et que c'est important pour mon nom, que c'est important pour mon image. Non, je crois qu'il faut remettre les choses à leur place. Ils n'ont pas d'énormes moyens, mais je pense que c'est quand même... fait avec beaucoup de, comment dire, faut ils ont envie de le faire, quoi. C'est le principal.
Elle est très polie, hein, pour dire. Voilà, j'adore, on vous invite à regarder cette archive. Et vous avez vu,
Qu'elle est habillée en libertine. Avec
C'est drôle, hein.
Et vous avez vu le réflexe qu'elle a, alors qu'on n'est même pas à l'époque des réseaux sociaux, hein, on est vraiment dans les années 80. Elle a le réflexe de ne pas se faire prendre en photo avec une fusée, quoi. Donc,
elle fait attention à son image.
Elle fait attention à son image, alors qu'on n'est quand même pas dans une époque où l'image est partout encore comme aujourd'hui.
Non, et attendez, surtout quand même, elle veut pas être prise en photo avec une fusée dans la main, et juste après, elle te chante Libertine, je suis une catin.
Oui.
C'est marrant, c'est comme si elle avait compris que d'ici 5-6 ans, elle ferait quasiment plus de télé. Elle savait qu'il fallait qu'elle s'installe, qu'elle soit vue par tout le monde, alors de France 3
Toulouse. C'est très très clair, hein, c'est absolument. On réécoute Jacques Pradel, c'est incroyable. Hein,
vision. Elle parle de marché, par exemple. Mmh.
Femme d'affaires, déjà.
Elle sait où elle veut aller.
C'est ce qu'on disait sur l'épisode sur l'autre, c'est qu'à partir de l'autre, elle ne fera plus que des gros prime time, des émissions où il y a du moyen, où elle se sentira mise en valeur, où elle ne sera pas non plus en train de faire la promo de la fête de la science du Collège du Coin.
Allez, dernier petit extrait de cette promotion. Un petit coup de cœur de Clément, Mylène qui parle des moines fous du Tibet dans l'émission Azimut durant l'été 86.
Comme exemple justement de recherche, j'ai vu qu'il y avait certaines chansons où tu avais demandé l'aimable concours, il faut le dire. Ils ont travaillé sur l'album avec l'aimable concours des moines fous du Tibet. Ça surprend.
Absolument. J'ai envoyé Laurent Boutonnat, qui est donc le producteur et réalisateur, compositeur, d'aller voir ces moines tibétains. Et comme les femmes sont exclues de ces monastères, je n'ai pas pu y aller. Il est donc allé avec son lama et il a enregistré ses prières.
Bon, alors les moines fous du Tibet, qui sont-ils? Quels sont
la
leurs réseaux?
Quelle comédienne!
Attends, ils avaient une petite histoire bien écrite là quand même.
Alors c'est quoi la vraie histoire?
Ça n'existe pas du tout. C'est un délire. Ils se sont dit, tiens, le bruitage qu'on met, on va rajouter que c'est les moines fous du Tibet.
Ah ouais, c'est des programmations, ouais. C'est rien d'autre que ça.
Bon, bref, vous l'avez compris, si vous avez un peu de temps et d'aller fouiller dans les archives, c'est assez pépite. Les participations de Mylène Farmer dans les années 80.
Tu connais un site comme ça qui a des bonnes archives?
Bah, vous pouvez aller justement sur le site de Clément, hein, mylène-interview.ch.
Oh oui, on l'a dit, hein, elle apprend son métier, donc elle fait plein de choses. Et elle a même donné une interview à un magazine de football américain. Donc,
Non, mais si vous savez lire, c'est intéressant.
Il y a le lien sur histoire2mf.com. Bon, il n'y avait pas eu cette rubrique pendant notre édition spéciale, forcément. Et donc, c'est enfin le retour du jingle, parce que maintenant, c'est les démos de Clément.
Et Ludo,
voilà les démos de Clément.
Bah alors, on est de retour.
Ouais.
Dans cette rubrique, on va vous parler de similitudes, comme d'habitude, entre les chansons de l'album Cendre de Lune, aussi de la production de l'époque. Mais on commence d'abord avec Clément, qui va nous parler d'un thème musical.
Eh ben oui, parce que je pense que c'est une évidence pour beaucoup. Et puis, bah, comme toutes les évidences, il y a peut-être certaines personnes qui seront passées à côté.
Mais oui.
Mais on va parler de Plus Grandir, le refrain de Plus Grandir. Tout à l'heure, je parlais de ce petit gimmick, comment j'ai dit tout à l'heure, infernal, diabolique,
ouais,
je sais plus. Mais en tout cas, hyper entraînant et qui est vraiment une marque de fabrique de Boutonnat. On va l'écouter. Et ben, qu'est-ce que va faire Boutonnat? Il va reprendre ce thème, il va le décliner en façon un peu plus lente, et ça va être le thème de ce qui s'appellera Cendre de Lune, l'instrumental Cendre de Lune.
Bah moi j'étais complètement passé à côté.
T'as bien fait parce que j'étais complètement passé à côté de ça aussi.
Alors, votre évidence.
Là on vous l'a un petit peu accéléré, voilà, pour que ça soit un peu plus flagrant. Et puis pour la cohérence, c'est également ce qu'on retrouve dans le générique du clip Plus Grandir.
Exactement. Qui est Cendre de Lune de toute façon.
Ils ont... Ah, il y a du saxo en plus, etc.
Oui, ah oui, c'est
un peu une version alternative.
Oui, Ludo,
de Lune,
sois précis s'il te plaît. Hein.
On est là pour pinailler.
C'est vrai qu'il y a du saxo.
On pinaille. Toi Ludovic, je crois que tu as des choses à nous dire.
Eh ben, bien sûr, eh ben, on va vraiment partir dans le dur des années 80. On met ses épaulettes. Hein.
Ouais.
Alors, on vous l'a dit, Laurent Boutonnat n'avait pas beaucoup d'argent pour produire l'album. Donc ils vont aller dans un petit studio. Et ça veut dire aussi qu'on n'a pas beaucoup de sons pour faire un album. Et il y a un son qui va revenir sans cesse dans plusieurs chansons et même dans plusieurs productions des années 80. On va écouter ce son là.
Oui.
C'est une sorte de son de fausse flûte.
Ouais.
Hein, un truc comme ça, ou comme si on soufflait dans une bouteille un peu. On le retrouve là aussi. C'est le même son.
Ah oui.
Ah ouais.
On va le retrouver là aussi.
Ah oui, c'est vrai, exact.
Mais c'est quoi ça?
Mais non, mais c'est Sabine Paturel. Ces petits bouchons, Sabine Paturel. C'est vous dire que vous n'avez pas beaucoup de moyens.
Ah, je ne connais pas du tout cette chanson.
Non, Non, c'était un piège. C'était pour voir si vous suiviez tout le monde.
Ah, Thibaut est pas tombé dedans. Ouais.
Toujours le même son.
Ah bah oui.
Ah bah oui.
Jeanne Masse.
Non, voilà, on est sur Plus Grandir. Et on va souligner aussi que ce son, il est sur Vieux Book, mais il est très sous-mixé. Donc j'ai pas pu l'isoler, mais il est là, mais il est quand même sur 4 chansons sur 9. Donc c'est quand même pas mal. Bon, et puis on va finir. Alors Clément, niveau production des années 80, t'as aussi quelque chose?
Ah ouais, moi j'ai quelque chose, et là ça concerne la rythmique, parce que dans les années 80, on utilise à fond les boîtes à rythme. D'ailleurs, sur Cendre de Lune, c'est pratiquement que de la boîte à rythme.
Alors c'est quoi une boîte à rythme?
Une boîte à rythme, c'est tout simplement un appareil qui va te permettre de rentrer des programmations rythmiques.
Qui sont synthétiques.
Des beats.
C'est des programmations. Beats. Et alors moi, je voulais vous faire écouter notamment l'intro de Maman a tort. Vous reconnaissez, on est d'accord,
oui,
que c'est
oui,
Maman a tort là.
Parce que là, bah, tout
on
va bien.
On est en 84.
On reconnaît bien une boîte à rythme.
Ah ouais. Mais vous êtes sûr que c'est Maman a tort, vous?
Non, c'est pas du tout Maman a tort.
Mais non, c'est pas Maman a tort, c'est Sophie Favier.
Ouais. Oh là 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 là.
C'est, alors vraiment, je vous le dis, c'est le plaisir de Clément.
Ah oui, parce que moi j'adore cette chanson.
Oh la vache.
Oh là 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 là.
Vous entendez bien que c'est la même rythmique, pratiquement le même son.
Il n'y avait pas beaucoup de propositions dans les années 80, tout le monde faisait à peu près la même chose parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens pour faire beaucoup de choses.
Non, et puis voilà, comme on a dit à l'époque, les pros, bah, ils travaillent tous ensemble, etc. Donc ils utilisent, bah, ils se refilent un petit peu les trucs entre eux.
Comme Archive et Bleu Noir.
Oui, voilà, pour le podcast.
Épisode 4, toujours disponible.
Exactement.
Mais Sophie Favier, je ne sais pas si elle a bossé avec Archive.
Pour remettre dans le contexte, Sophie Favier, c'était une ex-Coco Girl.
Voilà, à l'époque, c'est une Coco Girl.
Une émission de Stéphane Collaro que Mylène a faite pour Liberty, oui, je crois, c'est ça, qui passait tous les soirs à la télé à 19h. Et Sophie Favier, vous la connaissez certainement pour l'avoir vue dans les best-of de Christophe de Chavannes.
On l'a beaucoup vue dans les années 90. Oui, voilà.
Elle était chez de Chavannes, ouais, dans
Coucou c'est nous.
Et moi je le redis, j'adore cette chanson.
Cet endroit, Clément, je m'attendais pas à ce qu'on mette Sophie Favier sur notre site. Mais
on
bon,
te
voilà.
Surprend
tout
toujours.
Tout peut arriver dans cette émission.
Mais la phrase de fin de cette rubrique n'a jamais mieux porté son nom. Quand on aime
la musique,
on aime toutes les musiques. Toutes les musiques.
Merci Clément, merci Ludo. On va pas se dire adieu tout de suite, on va finir comme d'habitude par nos ressentis avec votre top 3 et votre note, puisque vous en avez pensé, on va commencer par Clément.
Moi mon top 3 ça sera Tristana, Will Never Die et Plus Grandir. C'est vraiment les trois chansons que je retiens de cet album. Et ma note, ça sera 7 sur 10.
Pas mal, hein.
Oh oui.
Ouais, c'est pas mal.
Ah ouais, c'est bien. Hein.
Bah, je suis surpris que vous me disiez ça, parce qu'en fait j'allais dire que c'est un album avec lequel j'ai toujours eu du mal à tisser un lien, on va dire. J'ai pas d'affect particulier pour cet album.
Ça se comprend, oui.
Ouais, je comprends.
Thibaut ?
Ben, je vais rejoindre Clément sur le fait que j'ai pas d'affect particulier sur ce disque. Je trouve que c'est un bon premier album. C'est un album qui est du style, qui est bien foutu, qui est barré aussi pour un premier disque. Il y a toutes les bases qui sont là, mais tout va prendre tellement d'ampleur par la suite que je peux pas le mettre à l'égal des autres. Donc moi je vais mettre 5 parce que
la moyenne.
Voilà, je mets la moyenne. C'est un album que je trouve qui a son charme, comme je l'ai dit au début, mais vers lequel je ne reviens pas nécessairement. Si je dois garder 3 titres, je vais garder Tristana. Parce que c'est un bijou, cette chanson.
C'est un vrai bijou. Ouais.
Et dans les pépites, pour reprendre les termes de Bastien, je vais prendre Will Never Die et Vieux Book.
Et toi, Ludo ?
Moi, je l'écoute pas souvent, peut-être parce qu'il a pas autant d'unité que par la suite. Mais quand je l'écoute, c'est en version originale vinyle. C'est-à-dire que.
Ah, t'es comme ça.
C'est-à-dire sans les remixes et sans Tristana. Et je pense qu'il est vraiment conçu comme ça. Avec les deux 45 tours forts pour ouvrir chaque face. C'est beaucoup plus commercial et beaucoup plus équilibré. Et bah, moi, je trouve qu'ils ont aussi créé une ambiance bien à eux, morbide, où le sexe est jamais loin dans les textes de Boutonnat. Et quand même, il y a déjà un souhait de vouloir s'entourer de gens du métier qui ont aussi de l'ambition. Et ça, j'aime bien. On sent qu'il y a une ambition derrière tout ça. Et ça, c'est plaisant.
Et ton top 3 ?
Et ben, mon top 3, ça va être Maman a tort, parce que je la trouve assez spéciale et que j'aime beaucoup le jeu de guitare de Slim Pesin. Greta, parce que moi, je la trouve magique, même si on n'en a pas parlé.
Oui, hein. Oui.
Il y a les répliques de Greta Garbo du film La femme aux deux visages et un super saxophone de Alain Hatto, on le redit. Et puis Au bout de la nuit, que je trouve formidable.
Et tu mets quelle note ?
Et je mets 6.
Bastien.
Bon, moi, je vais commencer par la note. Je vais mettre 7 sur 10 comme Clément. Donc, je vais pas refaire mon petit laïus du début d'émission. Hein, c'est vraiment, voilà. Et on l'a dit dans l'émission, la folie, le charme, les pépites. Donc, moi, c'est un album que j'écoute vraiment plus récemment, que je l'écoute plus souvent. Je me plonge dedans avec grand plaisir. Je trouve ça fun. Enfin, je sais pas, il y a vraiment un charme de l'époque. Et si je dois faire un top 3, moi, je mettrais vraiment en premier Libertine, quoi. Parce que ce titre est complètement dingue. Et dans ces multiples versions que j'aime écouter, des versions très très longues parfois. En 2, je mettrai Au bout de la nuit, et en 3 quand même Tristana évidemment.
Et toi Sylvain, dis-nous tout. Quelle est ta note ?
Quelle est ma note ? Je vais mettre 6 sur 10 parce que comme je disais au début, en fait pour moi c'est un album un peu artisan, un petit peu, on sent le début, c'est super prometteur, je crois que c'est Thibaut hein, tu disais ça, que c'était très prometteur.
C'est Mylène Farmer The Origins.
C'est le prequel. Et voilà, après c'est pas un album sur lequel je reviens régulièrement, mais là le réécouter pour le podcast, j'étais assez content en fait de réécouter tout ça et de redécouvrir, j'ai redécouvert Vieux Book par exemple ou Greta comme tu disais.
Et ton top 3 ?
Mon top 3 ça va être pas dans l'ordre, parce que j'aime pas mettre d'ordre, mais ça va être Tristana, Au bout de la nuit et We'll Never Die.
On est assez répartis là, sur notre...
Il y a pratiquement tout l'album qui est cité là.
Oui, pratiquement, ouais.
Mais vous êtes tous unanimes sur Tristana et pas
ouais.
moi.
Ouais, c'est ça. Tu l'écoutes sans, tu écoutes l'album sans Tristana.
Bah oui, c'est vrai, c'est pour ça, je pense. Je trouve meilleur sans Tristana.
Peut-être que tu redécouvres l'album avec
tu
Tristana.
La version d'origine alors, du coup, de l'album.
Ah oui,
sans Tristana.
Ah, sans Tristana, mais sinon c'est moins bien.
C'était Histoire de Cendre de Lune, épisode 5, les premiers pas, une émission conçue par Bastien, Clément, Ludo, Thibaut et moi-même, et réalisée par Ludo. Vous pouvez retrouver toutes nos infos, nos références, les autres épisodes sur notre site Histoire de MF, histoiredemf.com, histoire
avec un S.
Salut à tous.
À bientôt.
J'aime Histoire de.